Bonjour Thomas Hoffnung.
Bonjour.
Vous évoquez dans votre livre des événements allant des années 60-70 à aujourd'hui. En quoi le travail des espions a changé pendant cette période?
Alors, il a changé dans le sens où la relation de la France avec l'Afrique a totalement changé. C'est-à-dire que au lendemain des indépendances, les Français, que ce soit en termes de coopération ou de renseignement, étaient extrêmement présents dans l'entourage des présidents des ex-colonies. Ça, c'était dans les années 60, 70. Et puis, petit à petit, cette présence, a commencé à décliner. Et en quelque sorte, on peut dire qu'il y a une forme de normalisation, c'est-à-dire que les services de renseignement français, maintenant, doivent faire leur travail de recueil de renseignements un peu comme les autres maintenant.
C'est le cas, par exemple, au Gabon, où la situation a changé au fil des années et de nouveaux services de renseignement ont fait leur arrivée depuis l'accession au pouvoir d'Ali Bongo en 2009. Qui sont ces nouveaux venus et qu'est-ce qu'ils changent dans la manière de travailler pour les services français au Gabon?
Alors, comme vous le dites, c'est l'un des tournants, bien sûr, c'est la mort de Omar Bongo, qui était vraiment un des piliers de ce qu'on appelait la France-Afrique, et puis qui était un très proche de Jacques Foccart jusque dans les années 80, jusqu'à la disparition de Jacques Foccart, et qui était un relais en quelque sorte de la présence française dans cette région d'Afrique centrale. Et les services de renseignement, du coup, français avaient presque table ouverte, j'allais dire, au Gabon. Depuis l'arrivée d'Ali, effectivement, il a voulu diversifier, ne plus dépendre, ne plus être dans la main, en quelque sorte, de l'ancienne puissance coloniale. Donc, il a ouvert. On sait qu'il a une relation privilégiée, par exemple, avec Mohamed VI, le souverain du Maroc. Donc, les services marocains sont très présents. Il a aussi, il s'est aussi ouvert en direction du golfe Persique. Et puis, il y a aussi les Israéliens qui sont présents dans cette zone, mais peut-être plus au Cameroun.
Quand vous parlez des Israéliens, on parle d'entreprises privées ou de services de renseignement, d'espionnage israélien?
Alors c'est là toute la question parce que effectivement la frontière est ténue, mais c'est d'ailleurs le cas aussi. On peut se poser la question aussi pour les Français. La physionomie des services a changé. Il y a beaucoup d'anciens des services qui sont passés dans le privé au fil du temps. Hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous comme les militaires, en fait, vous quittez la carrière, mais pas le milieu, et donc vous reconvertissez dans le privé. Et donc, c'est valable pour les Français, mais donc pour les Israéliens qui peuvent jouer de la carte du Mossad, qui a une réputation qui n'est plus à démontrer. Et donc, vous avez ces agents du Mossad qui sont ces ex-agents du Mossad qui sont passés dans le privé et qui sont assez prisés par certains présidents africains, ceux notamment qui justement voudraient diversifier leurs sources et ne plus dépendre seulement des services français. Et donc, c'est le cas par exemple de Paul Biya au Cameroun, qui à la suite d'un coup d'État, une tentative de coup d'État dans les années 80, s'est dit qu'il fallait qu'il s'appuie sur d'autres services et a fait appel aux Israéliens. Mais encore une fois, la frontière est un peu floue parce que même si vous êtes passé dans le privé, c'est ce qu'on raconte dans le livre avec Antoine Lazer, c'est que vous avez toujours des contacts, bien sûr, avec les services officiels.
Vous le disiez, c'est aussi le cas pour la France, cette multiplication des entreprises de sécurité privée qui sont créées par d'anciens des services de renseignement. Est-ce que c'est plutôt une aubaine ou au contraire un risque pour les services officiels?
Ça peut être une bonne nouvelle ou en tout cas utile pour les services officiels dans le sens où d'un côté vous pouvez éventuellement vous servir de ces sociétés comme des sociétés écrans. En tablant sur le fait qu'il y a des liens importants avec des anciens, des services qui sont passés dans le privé, voire recueillir du renseignement indirectement, sans être en première ligne, peut-être dans des cas un peu compliqués. Mais parfois, ces sociétés peuvent, ces privés, peuvent au contraire brouiller un petit peu la ligne de conduite de l'action française dans la région.
Vous parliez tout à l'heure, quand on évoquait la diversification justement des acteurs de sécurité et de services de renseignement en Afrique du Maroc. Est-ce qu'il y a d'autres pays africains qui ont développé des services aussi performants que le Maroc? Quels sont les pays africains aujourd'hui qui disposent des meilleurs services de renseignement?
Historiquement, les services de renseignement sur le continent étaient vraiment tournés vers les oppositions, vers un travail de renseignement intérieur. Et c'est encore le cas dans nombre de pays. Mais c'est intéressant de voir que, du fait de la menace terroriste, certains États développent un vrai maillage de renseignements, y compris de renseignements extérieurs, avec les moyens qui sont les leurs. Mais par exemple, on peut voir que le Sénégal fait un vrai travail de renseignement pour lutter contre la menace djihadiste. Dans le Sahel, dans ce qu'on appelle le G5 Sahel, il y a cette volonté parmi les membres de ce groupe de développer les services de renseignement, parce qu'en quelque sorte, c'est nécessité fait loi. Donc ça devient vital de développer un service de renseignement. Et donc on change d'époque là aussi. On n'est plus dans le renseignement pour permettre au régime de se pérenniser et à son dirigeant de rester au pouvoir ad vitam aeternam, mais on est plus dans une forme de normalisation là aussi, où on va recueillir du renseignement pour faire face à une menace qui pèse sur les citoyens du pays.
Merci Thomas Hoffnung.
Merci.